Madame Delmas, vous avez la parole pour l'approbation des comptes administratifs des budgets principaux et annexes de l'année 2015.
Bien, merci Monsieur le Maire. Le budget primitif 2015 de la ville de La Teste-de-Buch a été adopté par le conseil municipal le 16 décembre 2014. Il a été amendé à trois reprises, le 14 avril 2015, BS 2015, le 9 juillet 2015, DM2 2015 et le 15 décembre 2015, DM3 2015. Ce deuxième compte administratif de la mandature 2014-2020 s'est inscrit dans un contexte macroéconomique national particulièrement contraint, caractérisé par des baisses des dotations de l'État, imposant aux collectivités locales des efforts de gestion sans précédent. Sur le plan local, le compte administratif 2015 intègre les charges liées aux équipements réalisés au cours des dernières années, tout en poursuivant notre engagement en matière de programmes d'investissement structurants. Cette démarche s'inscrit dans la suite logique des exercices précédents. Ce compte administratif a donc décliné la politique engagée par notre municipalité depuis 2008, à savoir la maîtrise des dépenses de gestion et la poursuite d'une politique d'investissement ambitieuse dans le respect des grands équilibres. Donc vous avez le tableau des grands équilibres que je vais donc vous commenter. Tout d'abord, les ressources de gestion qui confortent leur dynamisme. Elles se chiffrent à 37,47 millions d'euros. Elles regroupent les impôts et taxes, les dotations, subventions et participations et les autres produits de gestion courante. Les impôts et taxes s'élèvent à 29,79 millions d'euros. Ce montant correspond aux recettes du chapitre 73. Il représente la ressource essentielle de la ville de La Teste-de-Buch. En 2015, cette recette représente 79,5% des recettes de gestion. Bon, le produit des contributions directes pour un montant de 25 929 344 euros. Cet accroissement des bases fiscales a généré un produit supplémentaire d'un montant de 1 581 000 euros. Cet accroissement relève d'un montant de 208 000 euros qui correspond à l'augmentation législative des bases 2015 votée dans le cadre de la loi de finances et un montant de 1 373 000 euros qui correspond à l'augmentation physique de ces bases qui s'explique par les constructions nouvelles. Nous avons la fiscalité redistribuée par la COBAS. Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire pour un montant sensiblement équivalent à 2014, soit 397 257 euros. Et nous avons les autres taxes qui correspondent aux impôts indirects pour un montant de 3 462 976,96 euros. Donc vous avez un tableau qui retrace les autres recettes fiscales. Cette évolution s'explique par principalement la taxe additionnelle aux droits de mutation qui atteint pour l'exercice 2015 un niveau jamais atteint jusqu'alors, c'est-à-dire 2 304 222,09 euros. Puis nous avons la taxe sur l'électricité qui reste stable à hauteur de 760 085,04 euros. Les droits de place du marché en hausse significative qui s'élève à 339 751,88 euros. Nous avons donc en ressources les dotations, subventions et participations pour 5,74 millions d'euros. Cette somme inscrite au chapitre 74 représente désormais seulement 15,3% des recettes de gestion, alors qu'elle représentait plus de 26,9% en 2001. Évidemment, ce poids en baisse est lié à la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale dotation versée par l'État aux collectivités locales. Elle s'élève à 3 741 365 euros, soit une baisse de 652 254 euros par rapport au CA 2014. Donc vous avez un tableau qui retrace les dotations globales de fonctionnement depuis 2009 à 2015. Et vous voyez la chute libre depuis 2013. Nous avons également en dotation la dotation nationale de péréquation, la DNP, qui s'élève en 2015 à 522 747 euros. Nous avons des subventions de fonctionnement perçues en 2015 pour un total de 614 829,25 euros. Donc, qui émane de l'État pour 116 673,15 euros, pour le département 43 966,81 euros, de la COBAS 55 500 euros. Les autres financeurs s'élèvent pour 2015 à 390 995,70 euros. Les compensations d'imposition versées par l'État et par le département s'élèvent à 862 000 euros. Ça se décompose en compensation fiscale pour 685 399 euros et différentes autres compensations pour la différence. Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 1,94 million d'euros. Il se compose dans produits de domaine et des services pour un montant de 1 241 191,30 euros en 2015. Donc nous avons les redevances relatives au domaine communal, les produits des services et les remboursements sur charge. Les autres recettes courantes s'élèvent à 387 935,91 euros en 2015. Ce sont essentiellement les propriétés communales, les produits de la DSP Restauration. Nous avons également les atténuations de charges en 2015 pour un montant de 311 594,27 euros. Voilà en ce qui concerne donc les ressources. Nous abordons les charges de gestion. Comme vous pouvez le constater, elles sont stabilisées à 26,54 millions d'euros. Donc, dans ces charges de gestion, nous avons les charges de personnel, les charges de transfert et les autres dépenses de gestion. La plus importante charge, évidemment, ce sont les charges de personnel à hauteur de 16,05 millions d'euros. Elles représentent aujourd'hui 60,5% des dépenses réelles de gestion. Vous pourrez constater que la hausse est très limitée puisqu'elle n'est que de 0,45%. Et vous avez un tableau qui retrace les dépenses de personnel, les charges de personnel, depuis 2009 jusqu'à 2015. Puis nous avons les charges de transfert à hauteur de 3,98 millions d'euros. Donc ce chapitre retranscrit les contingents et participations, les subventions de fonctionnement et les autres charges de transfert. Les contingents et participations se chiffrent en 2015 à 150 380,58 euros. Donc, c'est une légère hausse, c'est traditionnel. Hein, l'école privée Saint-Vincent, la commune d'Arcachon dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal. Les subventions de fonctionnement, une part importante hein, dans les charges, elles s'élèvent à 3 978 504,12 euros. Donc la principale subvention est celle versée au CCAS pour 2 500 000 euros en 2015 contre 2 2 millions en 2014, donc une hausse significative. Nous avons la subvention à la Caisse des écoles, le versement de subventions aux associations à hauteur de 517 529. Et l'effort en matière de compensation de la restauration scolaire qui s'élève en 2015 à 381 070,28 euros. Les autres charges de transfert, indemnités, admissions en non-valeur sont portées pour un montant de 295 006,07 euros. Les autres charges de gestion, elles s'élèvent à 6,51 millions d'euros. Donc contre 6 807 387 euros en 2014. Nous avons Tout d'abord, les charges à caractère général, qui représentent les moyens mis à la disposition des services municipaux pour assurer leur mission de service public. Nous avons donc une diminution de ces dépenses de 2,69%. Donc, achats et variations de stock pour 2 165 654 euros, services extérieurs pour 2 634 169 euros, les autres services extérieurs pour 1 271 270 euros, des impôts et taxes et versements assimilés pour 218 836,34 euros. Puis nous avons les reversements sur recettes à hauteur de 220 532 euros. Nous venons de voir les ressources de gestion, nous avons vu les charges de gestion, donc les ressources moins les charges. Nous dégageons un excédent brut de gestion ou épargne de gestion extrêmement confortable qui s'élève à 11,14 millions d'euros. Donc la conjonction de recettes de gestion orientées à la hausse, plus 7,11% par rapport à 2014, et des dépenses de gestion, elles, orientées à la baisse, puisqu'elles baissent de 0,51% par rapport à 2014, concourent à une épargne de gestion en hausse de 2 622 656 par rapport à l'exercice 2014, soit une croissance de ce solde de 31,55%. Donc vous avez également un graphique qui vous retrace l'évolution de l'épargne de gestion. Comme vous le savez, ce solde étant le seul moteur durable de notre autofinancement, il retranscrit la capacité de la collectivité à poursuivre son développement futur. Donc nous avons un solde financier négatif de 0,88 millions d'euros qui retranscrit les dépenses des coûts liés aux dettes bancaires et PPP, à la ligne de trésorerie et aux frais financiers, et en recettes des produits financiers, intérêts de prêts souscrits pour la halte nautique et des recettes sur les parts sociales. En 2015, compte tenu du fonds de roulement initial, nous n'avons pas eu recours aux lignes de trésorerie. Les seuls mouvements relatifs aux prêts de court terme ont été des allers-retours comptables. Les intérêts appliqués à la dette sur l'exercice 2015 se décomposent en deux parties. Les intérêts de la dette bancaire, pour 556 322,60 euros, et les intérêts de la dette PPP pour 321 701,03 euros en 2015. Nous avons un solde exceptionnel de 1,75 million d'euros. Donc en recettes, nous avons 1 761 137,34 euros. Ce sont les remboursements d'assurance pour 319 813,35 euros, des remboursements sur frais de justice, des recouvrements sur créances. Et le principal produit émane des cessions d'actifs pour un montant total de 1 435 987 euros. Nous avons des charges exceptionnelles pour 12 491,03 euros. Après avoir vu le solde exceptionnel, nous arrivons à la capacité d'autofinancement qui est également en forte évolution. Elle s'élève à 11 081 000. La capacité d'autofinancement ou épargne brute cumule le solde financier et le solde exceptionnel. Il est en hausse de 45% ce solde par rapport à 2014. En neutralisant les produits de cession, ce solde intermédiaire s'élève à 10 372 000. Donc c'est cette épargne qui va financer le remboursement de capital de la dette et une part significative des dépenses d'équipement nouvelles. Le remboursement de capital de la dette, il est de 1,93 million d'euros. En 2015, le remboursement du capital de la dette bancaire s'est élevé à 1 708 909 euros. L'encours de dette sur emprunt bancaire au 31 décembre 2015 s'élève à 19 870 355 euros. Cet encours est composé à 84,5% de prêts à taux fixe et 9,4% de prêts à taux structurés. Et nous avons 6,1% qui représentent des prêts à taux variable. L'encours de dette PPP s'élève à 8 516 704,15 euros au 31-12-2015. Donc après avoir vu le remboursement du capital de la dette, nous arrivons à l'épargne nette ou autofinancement qui s'élève sur l'exercice 2015 à 9,87 millions d'euros. Et l'autofinancement hors produit de cession est quant à lui s'élève à, quant à lui à 8 438 222,76 euros. Donc vous avez également un tableau qui retrace ce solde. Et comme vous pouvez le constater, il reste extrêmement élevé. Et en hausse par rapport à 2014 de plus 59,72%, soit une hausse de 3 600 000 euros par rapport à l'exercice 2014. Donc, nous arrivons aux dépenses d'investissement hors dette, qui pour l'exercice 2015 se sont élevées à 17,88 millions d'euros. Donc pour mesurer plus précisément l'accroissement patrimonial de la ville, il convient également d'ajouter les travaux en régie et l'intégration du PPP Hôtel de Ville aux dépenses d'équipement, qui figurent donc au chapitre 20 à 23. D'un point de vue budgétaire, le Conseil municipal avait voté un volume de 23,69 millions d'euros au titre du chapitre 20 à 23 pour l'exercice 2015. 17,86 millions d'euros ont été payés, soit 75,5% des prévisions. Et 4 millions d'euros, soit 16,9%, ont été commandés à nos fournisseurs. Il en découle un taux de réalisation de 92% des prévisions de nos dépenses d'équipement. Donc également, vous avez un tableau intéressant puisqu'il retrace à la fois les dépenses d'équipement depuis 2009 et également l'encours de dette. Donc ces dépenses, elles se déclinent principalement dans le volet administration générale pour 0,606 millions d'euros, sécurité, salubrité, 0,346 millions d'euros, pour l'enseignement, 0,125 millions d'euros, la culture, 0,323 millions d'euros, sport et jeunesse, 3 249 millions d'euros. Action sociale, 0,090 millions d'euros. Famille, 0,005 millions d'euros. Le logement, 0,046 millions d'euros. Et le poste le plus important est le développement urbain pour 12,38 millions d'euros. Nous venons de voir, nous avons également pour le développement économique 0,690 millions d'euros. Nous venons de voir les dépenses d'équipement et maintenant nous abordons les recettes définitives d'investissement. Elles s'élèvent à 6,38 millions d'euros. Donc nous avons des dotations pour 4 820 085 euros. Donc des taxes locales d'équipement, fonds de compensation de la TVA et avances au titre du plan de relance FCTVA 2016. Nous avons des subventions pour 1 554 089 euros, donc essentiellement les subventions État, les subventions départementales, les subventions de la COBAS, 813, je le souligne, parce que c'est quand même un effort important, pour 813 728 euros au titre de 2015. Nous avons eu pour le passage inférieur Bisserier 563 728 euros. Et 250 000 euros au titre de la salle de gymnastique. Nous avons également eu une subvention de la société Test 10 pour 563 728 euros au titre du passage inférieur Sécari-Bisserier. Les opérations financières pour 2015 s'élèvent à 4 035,24 euros. Et nous avons des produits de cession d'immobilisation qui figurent donc à l'article 775. Sur l'exercice 2015, il y a eu des emprunts nouveaux pour 6 millions d'euros, 2 millions empruntés auprès du Crédit foncier en taux fixe et 4 millions auprès de la Banque postale. Et nous avons les 4 millions fléchés pour le, au titre du passage inférieur Sécary-Bisserier. Enfin, nous arrivons au fonds de roulement qui est en forte hausse. Il s'élève à 11,3 millions d'euros. Donc au 1er janvier 2015, le fonds de roulement dégagé par notre budget principal était de 6 949 000. Ce fonds de roulement a augmenté de 4 370 000 au cours de l'année 2015. Donc il en résulte de cette situation un fonds de roulement de 11 300 000. Ce fonds de roulement permet d'une part de financer les restes réalisés de 2015, qui s'élève à près de 4 millions d'euros, et d'autre part, a affecté 7,3 millions au budget 2016 par le jeu du budget supplémentaire tel que nous allons vous le présenter. Donc nous avons des mouvements, évidemment, qui ont été neutralisés dans le tableau des grands équilibres. Et donc, pour résumer en termes de résultats comptables, nous avons un solde donc, entre donc, les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Nous avons un solde de 7 763 000. Nous avons un solde d'investissement positif de 281 381. Donc nous avons un résultat de 8 044 000. À ce résultat, nous avons des résultats reportés 2014 en fonctionnement de 4 022 000. Nous avons un report en investissement négatif de moins 746 000, ce qui nous fait un solde reporté total de 3 275 000. Donc, ce qui nous fait en résultat cumulé en section de fonctionnement 11 785 000, un résultat en investissement négatif de moins 4, cumulé de moins 465 368, ce qui nous fait un total de 11 320 217. Donc à ce total, nous avons des restes à réaliser 2015 pour 3 997 251, ce qui nous fait un résultat de clôture 2015 en fonctionnement de 11 785 585, en investissement moins 4 462 620, ce qui nous fait un total de 7 322 965 qu'il nous faudra affecter. En conclusion, le plan de redressement des finances publiques engagé par le gouvernement s'est soldé pour la ville de La Teste par une nouvelle baisse, nous l'avons vu, de sa DGF, de 652 254 euros pour la seule année 2015. Cette baisse 2015 préfigure les baisses des exercices futurs 2016 et 2017. Et ainsi, il est envisagé que la DGF passe de 4 073 000 en 2012 en 2017 à 2 044 000. Face à ce constat, le conseil municipal a décidé de majorer les taux pour la seule année 2015, de manière à maintenir sa capacité d'investissement sur la durée du mandat. Parallèlement à cette majoration des taux, la ville a bénéficié d'un dynamisme immobilier qui a permis d'accroître significativement les bases fiscales. Le produit des contributions directes s'est donc accru de 2,3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2014. Par ailleurs, l'attractivité de notre territoire se traduit également dans la forte croissance des droits de mutation, puisque nous l'avons vu, il s'élève sur 2015 à 2,3 millions d'euros. C'est un niveau jamais atteint jusqu'alors. Ainsi, ces différents facteurs ont donc permis d'atténuer l'impact de la baisse des dotations de l'État dans nos recettes de gestion. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement ont été parfaitement maîtrisées, permettant ainsi de dégager une capacité d'autofinancement très confortable. On l'a vu, à hauteur de 11,8 millions d'euros, soit plus de 3,7 millions par rapport à l'exercice précédent. Cela conforte la solvabilité de la commune. Ces efforts en matière de gestion ont permis de réaliser un volume de dépenses d'équipement de 17,88 millions d'euros, financé à plus de 70% sur fonds propres. En résumé, le compte administratif 2015 du budget principal se caractérise par un niveau de dépenses d'équipement toujours particulièrement élevé, proche de 18 millions d'investissements nouveaux, des charges de gestion maîtrisées, une prise en charge des coûts induits par les équipements nouveaux conformes à nos prévisions, des ressources fiscales particulièrement dynamiques dans un contexte de baisse drastique des dotations de l'État. Voilà en ce qui concerne le budget principal, compte administratif, budget principal. Je peux peut-être poursuivre sur les budgets annexes. Donc, la deuxième partie, les budgets annexes, l'île aux oiseaux, le parc des expositions et le pôle nautique. En ce qui concerne donc le budget annexe de l'île aux oiseaux, nous avons donc, il ressort donc de l'exercice 2015, un fonds de roulement net des restes réalisés de 184 915,48 euros au 31 décembre 2015, qui peut se résumer à un excédent cumulé de fonctionnement de 166 634,44 euros, un excédent cumulé d'investissement de 19 239,97 euros et un besoin de financement des restes réalisés de 958,93 euros. Pour le budget parc des expositions, ce budget a été marqué par la renégociation du prêt qui a permis de réduire le taux d'intérêt de 5,02 à 1,79% annuel. Et donc l'exercice 2015 se traduit donc par un fonds de roulement en fin d'exercice de 55 114,17 euros qui se décompose en excédent cumulé de fonctionnement de 77 743,83 euros, un déficit cumulé d'investissement de 22 629,99 euros, pas de reste à réaliser, et un encours de dette de 396 391,57 euros au 31-12-2015. Nous arrivons au budget annexe du pôle nautique, donc qui présente un chiffre d'affaires en légère baisse, moins 4 362,19 euros, des charges d'exploitation en hausse de 26 524,28 euros et des dépenses d'équipement à hauteur de 18 830,55 euros. Ainsi, l'exercice 2015 en clôture fait apparaître donc un excédent cumulé de fonctionnement de 237 331,57 euros, un excédent cumulé d'investissement de 137 540 euros, un solde de reste à réaliser de 800 euros et un encours de dette de 40 496,22 euros au 31-12-2015. Voilà. Alors, je passe à la DELIP. Mes chers collègues, il est proposé au Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Bieler.
Deuxième oui, je céderai la place tout à l'heure au moment du vote, hein,
voilà.
Bien sûr.
Bon. Deuxième adjoint désigné à cet effet en application de l'article L21-21-14 du Code général des collectivités territoriales, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par le maire, de bien vouloir, après avis de la commission municipale, administration générale, ressources humaines, des finances et budget, services à la population, réunie en date du 29 mars 2016, lui donner acte de la présentation du compte administratif 2015, donc qui peut se résumer comme suit. Section de fonctionnement total des dépenses de fonctionnement mandatées, 32 936 502,77 euros. Total des recettes de fonctionnement titrées, 40 700 073 euros. Un résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 de 7 763 497,96 euros, un résultat de fonctionnement antérieur reporté de 4 022 087,97 euros, un résultat de fonctionnement à affecter de 11 785 585,93 euros. Pour la section d'investissement, un total des dépenses d'investissement mandatées de 22 761 723,25 euros, un total de recettes d'investissement titrées de 23 043 104,82 euros, un solde d'exécution d'investissement 2015 de 281 381,57 euros, un solde antérieur reporté de moins 746 749,88 euros, un solde d'exécution d'investissement cumulé de moins 465 368,31 euros, des restes à réaliser d'investissement de 3 997 251,92 euros, soit un solde cumulé de clôture 2015 de 7 322 965,70 euros pour le budget principal. Pour le budget annexe île aux oiseaux, section de fonctionnement, un total de dépenses de fonctionnement mandatées de 91 688,76 euros, un total de recettes de fonctionnement titrées de 95 233,52 euros, un résultat de fonctionnement 2015 de 3 544,76 euros, un résultat de fonctionnement reporté de 163 089,68 euros, un résultat de fonctionnement a affecté de 166 634,44 euros. Pour la section d'investissement, un total de dépenses mandatées de 18 972,29 euros, un total de recettes de 28 111,07 euros, un solde d'exécution de 9 138,78 euros, un report de 10 101,19 euros, des investissements cumulés de 19 239,97 euros, des restes à réaliser d'investissement de moins 958,93 euros, et donc un solde cumulé de clôture de 184 915,48 euros pour le budget annexe L'île aux oiseaux, pour le parc des expositions. Une section de fonctionnement, total des dépenses 59 451,74 euros, total des recettes 88 000 euros, un résultat de 28 548,26, un report de 49 195,57 euros, un résultat affecté de 77 743,83 euros. Pour la section d'investissement, un total des dépenses d'investissement de 455 113,55, un total de recettes de 459 640,60, un solde de 4 527,05, un report de moins 27 157,04, un solde d'investissement cumulé de moins 22 629,99, pas de reste à réaliser, ce qui nous fait un solde de clôture cumulé de 55 113,84 euros. Enfin, le pôle nautique, pour la section de fonctionnement, un total de dépenses de 583 257,12 euros, un total de recettes de 535 012,08 euros, un résultat de fonctionnement pour 2015 de moins 48 245,04 euros, un report de 285 576,61 euros, un résultat affecté de 237 331,57 euros. Et pour la section d'investissement, un total des dépenses de 23 993,79 euros, un total de recettes de 46 738,03, un solde 2015 de 22 744,24, un solde reporté de 115 595,96, un solde cumulé de 138 340,24, des restes réalisés pour moins 800 euros, ce qui nous fait un solde cumulé de clôture 2015 de 374 871,77 euros pour le pôle nautique. Il vous est proposé, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale, ressources humaines, finances et budget, service à la population, d'approuver le compte administratif 2015 tel qu'il vous est présenté, de constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes les identités des valeurs avec les comptes de gestion, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et de charger Monsieur le maire de l'ensemble des formalités y afférentes.
Merci Madame Delmas. Et avant de voter, donc, on va débattre. Donc, merci pour cette présentation détaillée du compte administratif. Je tiens à remercier aussi tous les services financiers qui ont participé à l'élaboration de ce document et de tout le travail qu'ils accomplissent durant l'année. Et maintenant, je vais laisser la parole pour les débats. Qui souhaite intervenir? Monsieur Sagne, Monsieur Pradérol, c'est pas après, Monsieur Garcia et Monsieur Bieler. Ok.
Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les élus, Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Delmas pour la clarté de sa présentation, un exercice compliqué et long, au vu de l'épaisseur des documents. Merci Mme Delmas. Ensuite, à la lecture de ce compte administratif, qui retrace les résultats comptables de l'exercice 2015 et qui vient de nous être présenté, je vous informe que nous le voterons. Pourquoi nous le voterons ? Tout simplement, je vais faire court, tout simplement, parce que dans le contexte actuel que nous connaissons tous, et suite à la baisse des dotations de l'État, les comptes pour 2015 tout semblent bons. Vous comprendrez aisément que nous voulons rester fidèles à nos engagements vis-à-vis des testeurs, mais du moment où la gestion nous paraît saine et maîtrisée, nous ne souhaitons pas nous engager dans une opposition systématique et ne pas valider ces comptes. Donc pas d'hésitation pour notre groupe. Il n'est pas question aujourd'hui de chèque en blanc, bien entendu, mais aussi nous continuerons à être mobilisés et vigilants sur l'avenir et l'évolution de notre commune. Bien, Monsieur le maire, juste un bémol quand même. Nous avons bien noté que les emprunts avaient augmenté et que même si aujourd'hui nous restons dans des montants d'emprunts raisonnables par habitant, il nous semble important que ce poste reste parfaitement maîtrisé dans les années qui viennent. Pour conclure sur ce sujet, Monsieur le maire, nous pensons que les comptes administratifs de la commune sont bons et corrects et il nous semble normal que la population puisse en bénéficier par une amélioration des services et par des investissements afin de favoriser, entre autres, la création d'emplois sur notre territoire. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Sagne. Monsieur Pradérol.
Un point de détail. Vous avez évoqué ces comptes, ces résultats qui étaient définitifs. Ils apparaissent dans une colonne CA 2015 prévisionnelle. Il faudrait peut-être enlever le prévisionnel avant de l'envoyer où vous l'envoyez. Comment ?
Une fois que ça sera voté, ça sera définitif.
Jusqu'à présent, on n'avait pas le mot prévisionnel dans les colonnes. Mais bon, voilà, merci. Mais peut-être que ça deviendra définitif, en fait. Alors, comme certains se réfèrent régulièrement à l'entreprise pour commenter la gestion communale, les comptes de l'entreprise commune de la Teste sont à première vue globalement positifs, très positifs même. Vulgairement parlant, on pourrait dire que la commune fait de l'argent. Le journal Sud-Ouest, dans son édition d'hier, rapporte des propos bien résignés de votre part, Monsieur Hérol. Je vous cite. « La gestion est bonne malgré ce qu'on va entendre ». Il y a donc matière à entendre.
Ben, vous allez peut-être me dire le contraire.
Mais non, vous m'obligez. Vous m'obligez. Il y a donc...
Écoutez, je suis ravi alors à ce moment-là. Comme voyez, ça ne sera pas monotone.
Vous voyez que c'est une complémentarité qui est assumée. Et oui, il y a donc matière à entendre. Vous en convenez déjà, vous en avez déjà convenu. Et en effet, nous sommes d'accord sur ce point aussi, vous voyez. Alors, pour les éloges flatteurs, la Cour s'en chargera, bien évidemment. Ce compte administratif est depuis 8 ans le plus représentatif de votre politique, politique que, je ne vous surprendrai pas, nous ne partageons pas. Un petit retour sur le passé. L'an passé, l'épargne nette ou autofinancement ne s'élevait plus qu'à, entre guillemets, 5 700 000 euros. Vous l'expliquiez à juste titre par essentiellement la baisse de l'épargne de gestion et la hausse des remboursements d'emprunt. Que faire ? Revenir à une gestion conforme à nos moyens ou persévérer dans la fuite en avant ? C'est cette deuxième solution que vous avez choisie parce que vous voyez en grand. Pour satisfaire ce choix, vous vous êtes appuyé sur 3 leviers simultanément. Le premier, l'augmentation des recettes, notamment des recettes fiscales. L'augmentation des taux que votre majorité a voté en avril dernier, conjuguée à celle des bases, a boosté les recettes fiscales. 2 600 000 euros supplémentaires par rapport à 2014, 25 900 000 en 2015 contre 23 600 000 l'année précédente. Entre 2013 et 2014, l'augmentation des recettes fiscales s'est levée à 800 000 euros. Et déjà, nous la dénoncions. Alors, à comparer aux 2 600 000 euros de 2015, elle pourrait paraître presque anecdotique. Entre-temps, la hausse des taux des 3 taxes a fait son œuvre. L'augmentation des bases physiques, fruit de votre politique en faveur de la promotion immobilière, enregistre en 2015 des résultats qui doivent vous ravir. Les droits de mutation sont passés de 1,6 million en 2013 à 1,9 million en 2014 et à 2,3 million en 2015. Ces deux éléments réunis vous permettent d'enregistrer une plus-value de 2,5 million par rapport à 2014, le total des ressources de gestion passant de 34,9 millions à 37,4 millions entre les deux années 2014 et 2015. La baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, pourtant conséquente, d'un montant de 650 000 euros, passe inaperçue. C'est dire, on pourrait presque penser que vous êtes un supporter du gouvernement. Ces recettes en pareille hausse pourraient être considérées par celui-ci comme une justification à poursuivre. Or, rassurez-vous, on ne lui dira pas. Après l'augmentation des recettes, et notamment fiscales, c'est-à-dire de l'impôt des testerins, eh bien, c'est celui de la contraction des dépenses. C'est ce que vous avez tenté de faire depuis que vous êtes élu sans réellement atteindre pleinement votre objectif, et c'est heureux. Dans un contexte de blocage des salaires des fonctionnaires depuis 2010, l'évolution des dépenses de personnel reste contenue. Malgré des détachements de personnel auprès d'autres communes ou auprès d'autres organismes satellites, comme nous venons de le voir sur deux précédentes délibérations, elle progresse de 0,5%, les seules rémunérations augmentant de 1%. Et oui, il est très populaire dans votre camp d'afficher des intentions de suppression de postes de fonctionnaires, mais devant la tâche, c'est beaucoup plus compliqué parce que ces personnels font un travail réel. Ils remplissent des missions difficiles à supprimer. Il va de soi que ce constat n'est pas pour nous déplaire. Pour autant, vous parvenez, et je suis d'accord avec vous, à réduire les charges à caractère général. C'est-à-dire, comme vous le précisez, et je vous cite, à réduire donc les moyens mis à la disposition des services municipaux pour assurer leur mission de service public. Du personnel avec des moyens limités, est-ce que c'est bien raisonnable ? Au final, les dépenses de gestion enregistrent une diminution, certes légère, mais une diminution tout de même de 0,5%. Or, diminuer ces dépenses à l'excès signifie une diminution des services à la population ou au mieux une stagnation. Vous évoquez sur l'article du Sud-Ouest précédemment cité un montant d'investissement à hauteur de 17 800 000. Au regard de ces presque 18 millions d'euros d'investissement, n'est-il pas indécent de demander aux familles dans plusieurs délibérations à venir concernant la jeunesse une participation de 40% au coût de certaines activités contre les 30% demandés l'an passé ? Au regard de ces presque 18 millions d'investissements, n'est-il pas indécent, dans les délibérations à venir consacrées au règlement des accueils de loisirs, concernant les jeunes en situation de handicap, de rajouter, la structure ne possède pas de véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, ce qui, de facto, revient à exclure ces jeunes de certaines activités. Au regard de ces presque 18 millions d'euros d'investissement, n'est-il pas indécent d'avoir augmenté les tarifs de la restauration scolaire, de l'accueil périscolaire et des ALSH exclusivement pour les enfants des familles les plus défavorisées économiquement, afin de permettre aux autres de payer moins ? Quand on s'enorgueillit de consacrer presque 18 millions d'euros à l'investissement, on n'oublie pas l'essentiel de la mission d'une municipalité. Améliorer le quotidien des administrés en leur facilitant un accès équitable à tous et à tous les services et toutes les prestations. Il aurait suffi de quelques milliers d'euros pour assurer la quasi-gratuité des activités jeunesse et faire l'acquisition d'un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, et donc d'assurer aux jeunes en situation de handicap les mêmes activités qu'à leurs collègues valides. Mais ces investissements-là n'en sont pas en termes comptables. Ils font partie des charges qu'il faut absolument réduire, parce que, comme leur nom l'indique, elles sont un poids pour dégager l'autofinancement qui permettra l'investissement, le vrai, celui du béton et du goudron, etc. Et je pourrais continuer en boucle, longuement. Donc, pour résumer, j'ai pas fini, je vous rassure. Donc, pour résumer...
C'est tellement délicieux que continuez.
Oui, si vous écoutiez tout, vous verriez que c'est encore mieux. Donc, pour résumer, avec 37 500 000 euros de recettes et 26 500 000 de dépenses, vous obtenez un excédent de presque 11 millions d'euros. Après toutes les opérations de soustraction des charges financières liées à la dette, vous dégagez un autofinancement hors produit de cession de 8 400 000 euros contre 5 700 000 en 2014. Les augmentations d'impôts et taxes ont rempli pleinement leur rôle. Merci les testerins. Vient ensuite le troisième levier. On a vu l'augmentation des recettes, on a vu la contraction des dépenses. Eh bien, on va voir celui de l'emprunt. Vous auriez pu vous satisfaire de cet autofinancement bonifié de quelques autres ressources, notamment d'investissement. Mais non, vous utilisez tous les ingrédients et rajoutez 6 millions d'euros d'emprunt. Au passage, cette année, peut-être c'est nouveau aussi, les deux dernières lignes du tableau des grands équilibres qui habituellement retranscrivaient l'état de la dette ont disparu. Et je le déplore, mais ça doit être la nouveauté du jour. Elle s'est levée à 15 242 995 euros en 2013, la dette. Elle est passée à 24 264 082 euros en 2014. Et 2015 constitue le record avec une dette à 28 387 059 euros. Une excellente situation financière. Vos successeurs sont avertis, mais avec eux, les testerins aussi. Ainsi, vous affichez un budget de près de 24 millions d'euros d'investissement. J'avais ironisé là-dessus. Vous en avez réalisé 17 800 000, ce qui est pas mal. C'est l'année de la promesse faite à une enseigne commerciale. Ce fut long, mais le tunnel a été livré. Et votre obligé, et malgré les craintes de M. Davé, qui n'est pas là, mais on lui dira, a tenu ses engagements. C'est aussi l'année de la reconstruction de la salle de gymnastique. N'oublions pas que l'ancienne avait brûlé juste au moment où nous en devenions propriétaires. C'est quand même pas sympa, ça. Et puis, et surtout, il y a tous les travaux de voirie, qu'il s'agisse du carreau du marché et aussi des couches de roulement ici et là. Car il est essentiel que la machine ne se grippe pas. En effet, vous le dites et l'écrivez sur tous les documents budgétaires, l'essentiel réside dans l'attractivité de notre territoire, qui se traduit par la forte croissance des droits de mutation et dans le dynamisme immobilier, qui permet d'accroître significativement les bases fiscales. Vous avez fait de la reconstruction de la ville l'alpha et l'oméga de votre politique. C'est par l'accroissement des recettes liées à la promotion immobilière que vous avancez. Peu importe ensuite le niveau de services et de prestations offerts à la population. Ce qu'il faut, c'est une ville qui puisse se vendre sur catalogue. L'atteste, une ville à vendre, c'est le slogan que je vous suggère. Et les résultats sont probants. Le Sud-Ouest de mercredi, hier donc, a consacré une double page à son enquête logement. Qu'y voit-on ? Que la ville de La Teste est la seule ville hors métropole de Bordeaux qui confirme sa capacité à produire à un rythme très élevé des constructions de logements. Elle est zonée en rouge vif. On pourrait s'en réjouir s'il s'agissait de répondre à la demande locale de logements sociaux. Mais non, ce n'est pas le cas. Car la même enquête confirme, une fois de plus, que les logements neufs sont achetés très majoritairement par des investisseurs. L'acheteur, le plus souvent un particulier, s'adresse à un conseiller qui lui vend un appartement qui sera donné en location ou pas, afin d'empocher la défiscalisation. Non, monsieur, tous les acheteurs de logements ne sont pas des investisseurs. Ce que nous disons depuis les lustres,
un amalgame de ce qui se passe dans la région, oui, et vous l'interprétez au niveau de la Teste.
Non, enfin, c'est bien,
tout le monde, j'espère que tout le monde a lu la presse et a compris autre chose.
Oui, il vaudrait mieux qu'ils comprennent ce que vous dites, c'est ça. C'est mieux quand c'est une enquête d'un journal qui le confirme. Quand je le dis, vous ne me croyez pas. Mais voilà comment notre ville va se saturer de logements, alors que ceux qui travaillent et voudraient vivre ici, à La Teste, vont acheter à Mios, à Salles, voire à Ichoux, Parentis, etc. Quant à la situation économique des commerçants du centre-ville, elle est catastrophique. Les prix de la caution et des loyers sont exorbitants. Vous n'essayez pas d'y apporter remède. Il y a des outils en intervenant sur ce marché immobilier. La conséquence, pour s'en sortir, Soit ils pratiquent des prix au-dessus du marché et les clients ne viennent pas. Soit ils pratiquent les prix du marché, alors ils ne peuvent pas payer les charges. Dans les deux cas, soit ils mettent la clé sous la porte, soit le propriétaire les met dehors. Je ne voudrais pas terminer mon propos sur un mode que vous pourriez juger réquisitoire. Alors, je tiens à clore cette intervention par une note optimiste. Vous voyez que vous êtes content. Monsieur Claude Espier, vous êtes ravi que tout le monde connaît ici. Certains rires qui ne sont pas généreux et dont certains se réclament. A été maire de la Teste deux mandats durant, compte non tenu d'une interruption dont quelques-uns ici connaissent bien les causes. Monsieur Espier fut battu lors des élections de 2001 par Jean-François Commirand et son équipe dont nous faisions partie, François Coineau et moi. J'ai le souvenir des campagnes de 2001 et de 2008. Le logement, et plus particulièrement le logement social, ont chaque fois été l'objet de stigmatisations, parfois nauséabondes, surtout en 2001. Il y avait, d'un côté, les tenants du logement social, nous, de l'autre, les adeptes de la maison individuelle. Le logement social était assimilé à un risque potentiel de délinquance par ses détracteurs. Et la maison individuelle et son jardin représentaient la tranquillité des honnêtes gens par les mêmes. Caricatural à l'extrême et deux points de vue inconciliables alors. Le temps a passé. Nous sommes en 2016. Monsieur Espier a décidé d'aller s'installer sous des cieux encore plus cléments, m'a dit l'un de ses proches. Il a donc vendu sa maison, rue Gaston de Foix. Elle jouxte la nouvelle école Brémontier, qui, à l'origine, devait être reconstruite plus loin, à l'emplacement de l'ancienne. En fait, l'emplacement de l'école actuelle était affecté à la construction de logements sociaux. Le programme était ficelé et le bailleur choisi. Mais, après les élections de 2008, le nouvel exécutif sorti des urnes a modifié, allez savoir pourquoi, la destination des terrains et construit l'école. Qu'il fallait 100 étages afin de ne pas gêner le voisinage, sur le terrain affecté précédemment aux logements sociaux. En effet, M. Espier a vendu sa maison et les 6800 m2 de terrain qui vont avec à une société immobilière qui va construire 48 logements, dont 12 logements sociaux. N'y a-t-il pas toujours une place pour l'optimisme dans ce bas monde ? Ne trouvez-vous pas ? Merci.
Merci, M. Braderolle. On vous répondra après. M. Garcia.
Ah, merci. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, sur cette note, finalement, d'optimisme, je souhaiterais aussi remercier notre collègue Christine Delmas qui vient de nous présenter les lignes du compte administratif. Et la qualité de cette présentation a été spécialement relevée, il faut le noter. Construire un budget est avant tout une prise en compte de l'ensemble des contraintes qui s'imposent à une collectivité. C'est un équilibre et un exercice d'équilibre obligatoire, toujours difficile à trouver entre les envies et les capacités bien réelles d'une organisation. L'équipe municipale a opté pour une démarche transparente, quoi qu'on puisse en dire, vis-à-vis de sa population, en déclinant annuellement des objectifs annoncés et chiffrés pour l'ensemble du mandat avec le contrat de mandature 2014-2020. Le calendrier des projets s'adapte naturellement au fil des mois, des années, des attentes, des testerins. La ligne directrice est ainsi claire, affichée et assumée pour mieux anticiper et accompagner la transformation de notre commune. Le plan de redressement des finances publiques engagé par le gouvernement a pour effet de réduire sensiblement la DGF. Celle-ci sera réduite en effet pour la ville, pour la seule année 2015, de 652 254 euros. Cette baisse préfigure les baisses des exercices 2016 et 2017, on ne peut pas y échapper. Cette diminution traduit une décroissance économique qui va augurer une mauvaise dynamique pour l'emploi et par conséquent impacter la vie de nos concitoyens. Dans ce contexte, le budget 2016 est construit avec ses contraintes et il nous oblige à maîtriser rigoureusement nos dépenses de fonctionnement, tout en assurant le maintien d'un service public de qualité. Nous ne pouvons donc pas, dans ce contexte, replier la municipalité sur elle-même. Le choix de M. le maire et de son équipe est de poursuivre un programme ambitieux d'investissement afin de soutenir l'économie locale. Ainsi, notre politique d'investissement, dynamique chaque année depuis l'arrivée aux affaires, est créatrice d'emplois pour les testerins et du bien-vivre dans la commune. Nous pouvons nous en féliciter. Le compte administratif qui vient de vous être présenté en témoigne. Et pour rappel, ces dépenses d'investissement qui ont été réalisées se décomposent en deux parties. Les opérations dites récurrentes, avec la poursuite des programmes, des grands programmes, l'éclairage public, la réfection du réseau, par exemple, d'eau pluviale, la mise en conformité et la mise en place d'économies d'énergie dans les bâtiments communaux, la poursuite des travaux liés à l'agenda d'accessibilité. Et puis il y a également les opérations plus significatives, l'aménagement du cœur de ville, la façade du port, l'ancien hôtel de ville, l'aménagement de l'avenue Louis-Gaume à Pila, la rue des Bruyères à Cazaux, pour ne citer que ces exemples. En d'autres termes, poursuivre la mutation de notre ville par une politique de gestion des finances publiques rigoureuse, associée à des investissements soutenus et indispensables, est bien le sens que M. le maire et son équipe municipale veulent donner à l'action communale. Et le compte administratif qui a été présenté ce soir est pour moi la traduction de cette réalité et non d'une fuite en avant. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci, monsieur Garcia. Monsieur Biller.
Oui, merci, monsieur le maire. Je vais chausser les lunettes à madame Guillon. J'ai oublié les miennes, excusez-moi. Oui, donc je voulais insister sur quelques points qui me paraissent importants et puis répondre à l'opposition en la personne de M. Pradérol, puisqu'il est le seul à s'être exprimé de façon tout à fait opposante. Effectivement, nous ne partageons pas la même politique. Je crois que ce n'est pas nouveau. Et M. Pradérol, je voudrais quand même relever certains amalgames qu'il peut faire, certaines incohérences et parfois certaines caricatures dans des propos qui l'amènent à être un petit peu excessif parfois. Certes, vous préférez nous faire une opposition systématique que constructive, on l'a bien compris, mais elle est même très dogmatique. Vous êtes dans l'opposition, il faut s'opposer, on est d'accord. Ce qui est amusant, c'est que dans d'autres lieux, vous avez parfois un comportement sensiblement différent. Hein, bon, si, me semble-t-il, pour y siéger moi-même. En tous les cas... Ah, bon, écoutez, il n'y a que vous pour le croire. En tous les cas, vous nous abreuvez de...
Là, quand même.
Je crois que là, vous vous exagérez un petit peu. Mais bon, ça va avec la caricature que vous faites de notre politique. De toute façon, vous êtes cohérent là-dessus, il faut le reconnaître. Ce n'est pas, de toute façon, en nous abreuvant de chiffres que vous retirez plus ou moins de leur contexte, que vous paraissez plus crédible. Les chiffres, on le sait, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Dans le rapport 2015 que Christine nous a présenté, qui était particulièrement clair, il y avait en préambule un tableau de présentation on ne peut plus éloquent quant à l'excellence de nos résultats financiers. Et si on décline rapidement ce tableau, on observe que les rentrées fiscales sont en hausse, que les ressources de gestion, malgré le désengagement de l'État, sont également en hausse. Les charges de personnel sont parfaitement contenues. Les dépenses de gestion sont en baisse, l'épargne nette atteint des sommets, les dépenses d'investissement sont en hausse également, le taux de réalisation des investissements est très élevé, les recettes d'investissement en hausse, le fonds de roulement aussi et la dette maîtrisée. Donc il n'y a pas une ligne qui nous incombe et dont nous ayons à rougir. Et on peut rentrer un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien. Donc on a eu droit au couplet à duel sur l'augmentation de la pression fiscale que vous imputez, comme d'habitude, à l'augmentation des taux que nous aurions votés. Ce que vous oubliez quand même de dire, c'est que sur l'augmentation de la pression fiscale, il y a beaucoup de rentrées fiscales nouvelles, dues aux nouvelles constructions. Même plus de la moitié, et donc il ne faut quand même pas faire croire que l'on pressure les testerins de la façon dont vous avez essayé de le faire croire. Ça serait quand même assez injuste par rapport à la politique que nous menons. Effectivement, à La Teste, eh bien, vous avez relevé cette augmentation. Je crois qu'elle n'est pas que sur la commune de La Teste. Hein. Allez voir le département, allez voir la région, allez voir beaucoup d'autres villes. Et rappelez également qu'il faudrait tenir compte aussi de la géographie de notre commune, de La Teste de Buch, qui est très étalée et cela a évidemment un coût, ne serait-ce qu'en matière de voirie. Quand vous étiez aux affaires, hein, je sais que ça vous fait plaisir de le dire, il y a bien longtemps, vous n'avez pas fait mieux, hein, même bien pire, en matière d'augmentation de taux, ne l'oubliez pas, sur ce sujet-là, un peu de modestie serait peut-être nécessaire. On peut la reprendre si vous voulez. Hein, de toute façon, vous savez, M. Pradérol, vous répétez un peu tous les ans la même chose, donc on vous répond un peu sur le même créneau. Hein, ça se ressemble beaucoup. Ça sort. Je vous remercie, M. Prader, le voyez, vous ne l'avez jamais été. Bon, je vous en remercie. N'oublions pas non plus que cette augmentation de taux est intervenue pour compenser, je crois que Christophe vient de le dire, la baisse de la DGF qui a été voulue par un gouvernement que vous défendez d'ailleurs. Je me demande, pour terminer sur ce sujet, comment réagiriez-vous si les recettes de gestion étaient en baisse, hein, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de communes de France qui connaissent cette situation d'une baisse des recettes. Hein, et imaginez la situation que ça peut entraîner. Oui, mais ça nous concerne. Mais bon, je me demande comment vous réagiriez si c'était le cas. Donc, je ne vous dis pas réjouissez-vous, peut-être, ça serait peut-être excessif, mais enfin, vous pourriez au moins vous satisfaire de cette augmentation des recettes de gestion. Concernant la diminution des dotations de l'État, vous dites qu'elle elle passe inaperçue. Vous exagérez beaucoup. 630 000 euros, c'est pas rien. 253 000 l'an dernier, c'est pas rien. Ça fait 900 000 euros, presque 1 000 000 en 2 ans. Et je crois que Christophe le disait, c'est pas fini pour les années à venir. Vous la défendez, vous la minimisez, vous préférez ironiser dessus. Nous la dénonçons et nous continuerons à la dénoncer. Il y a effectivement cette différence de fond entre nous. C'est tout à fait souhaitable. C'est un phénomène démocratique, une différence de 1 million et qui n'est pas finie. C'est d'autant plus sévère pour La Teste que La Teste, je le rappelle, a toujours été le parent pauvre des communes de même strate. Et comme l'État inflige cette sanction sans discernement, l'écart avec les autres communes ne fait que s'accentuer. Et ce n'est pas négligeable. Comme vous pouvez le voir, en 2014, bon, je n'ai que la référence 2014, je crois que c'est dans le rapport que Christine nous a donné, nous avons déjà perdu 61 euros par habitant par rapport aux communes de même strate. Face à cette situation contrainte, comme on dit, il y avait nécessité de contenir les charges de gestion. Alors, l'an passé, vous nous aviez reproché des charges de personnel qui croissaient de façon... Reprenez vos propos de l'an passé. Enfin, je les ai relus cet après-midi. Vous voyez, j'ai pris le temps d'aller relire le PV de l'an passé. Hein, vous aviez... Non, monsieur, mais je les ai lus in extenso, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez reproché cette augmentation de charges de gestion. Aujourd'hui, eh bien, vous constatez qu'elles sont contenues, elles sont même en baisse, pour deux raisons. D'une part, les charges de personnel croissent à peine, malgré... Alors je veux bien que les salaires n'augmentent pas beaucoup, le GVT est quand même bien là. La promotion de 46 agents, Christine l'a dit tout à l'heure, et la stagiarisation de 11 agents. Et puis, sachant que nous avons de nouveaux services avec de nouveaux bâtiments, des écoles plus grandes, des salles de sport, etc., qui génèrent des dépenses d'entretien nouvelles, nous avons optimisé et mutualisé les services de la ville. Il n'y a pas de diminution des services à la population. Bien au contraire, nous continuons à améliorer le quotidien. Alors, concernant l'épargne nette, vous avez observé qu'elle est de 10 millions. Moi, c'est un sujet qui m'interpelle, parce que je rappelle que ça veut dire que ça nous permet d'autofinancer 10 millions d'investissements. C'est pas rien, 10 millions d'investissements. Là aussi, faut-il être assez cruel pour rappeler que dans le passé, certaines majorités commençaient par emprunter avant de pouvoir investir un centime. Hein. On a bien inversé la tendance. Voilà, vous voyez, M. Pradérol. Bon, vous voyez. Vous voyez, hein. Et vous avez continué, et parfois en vendant les bijoux de famille pour essayer de vous en sortir. Oui. Concernant le taux de réalisation, ça aussi qui est important, des dépenses d'investissement, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. Hein, nous sommes dans l'action. Nous réalisons 92% de ce que nous annonçons. Là aussi, il y a eu une époque, M. Pradérol, vous vous souvenez, on était à 40 ou 50%. Concernant Oh, mais j'y ai assisté souvent, ne vous inquiétez pas, ça m'intéressait. Hein, vous... Ah oui, toujours, ça m'a toujours intéressé, vous voyez. Le... Et j'y étais avant vous-même, dans une époque où je vois M. Serrano qui est là. Hein, ça fait maintenant bientôt 30 ans. Hein. Le... Donc, concernant les dépenses d'investissement qui sont élevées, je voudrais également rappeler que c'est le fondement de notre politique aux côtés de M. le maire. Notre commune, nous considérons, doit poursuivre sa rénovation. Et pour cela, pour le bien-être de sa population. Et là où l'immense majorité des communes revoient à la baisse leurs investissements, eh bien nous continuons à investir avec des investissements qui sont financés à 70% sur fonds propres. Ça a été rappelé tout à l'heure également. Concernant la dette, vous nous annoncez la catastrophe. Hein, je crois que bon... Ah oui, ben vous nous donnez des chiffres qui sont dans la moyenne des communes de même strate. Donc ça va catastrophique. Bon, voilà. Donc il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. Non, mais je ne vous parle pas des chiffres, je vous parle de l'aspect dramatique des chiffres. Les chiffres n'ont rien de dramatique. C'est facile. Bon, il n'y a pas une assemblée qui est très importante. C'est facile de dire, regardez, la TEST est endettée à 28 millions. Ça frappe tout le monde. 28 millions, tout le monde prend peur et part en courant. Bon, par rapport à un budget communal, par rapport à un budget personnel. Mais enfin, quelque part, ces chiffres-là, ils montrent que la situation n'est pas dramatique. On est dans la moyenne des communes de même strate, avec une commune, comme je le disais tout à l'heure, qui est peut-être beaucoup plus difficile à gérer que bien d'autres. Voilà. Donc, il y a... Alors, je voulais vous répondre également sur un ou deux points. Bon, on a eu la rubrique nostalgie sur Claude Espier. Vous avez parlé de l'école Brémontier. Juste vous dire que, quand nous avons pris ce dossier, ça nous paraissait peut-être plus intéressant de construire l'école en site propre à côté, sans être obligé de faire une restructuration avec des élèves sur site. On sait ce que c'est. On l'a connu à l'école Lafont, à l'école Chambrelan. Croyez-moi, pour la communauté éducative, c'est loin d'être facile. C'était beaucoup plus souhaitable de faire comme ça. C'était facile de trouver un accord avec l'auditeur également, et ça n'a pas posé de problème. Quant au fait qu'il y ait une école sans étage à cet endroit, j'attire votre attention que dans tous les quartiers de la ville où il n'y a pas d'étage, nous n'avons pas fait d'école à étage, hein, que ce soit la Fond, que ce soit les autres écoles. Hein. Ne nous racontez pas de chansons là-dessus, vous affabulez là aussi, bon, c'est votre droit. Beaucoup d'injustices dans votre intervention sur notre politique en matière de handicapés. Bon, vous savez que nous sommes engagés dans une charte sur le handicap avec Laurette Langrimaud. Vous voudriez faire croire que nous refuserions d'accueillir les jeunes handicapés. Bon, on en parlera tout à l'heure lors de délibération. C'est pas tout à fait le cas. Et bien au contraire, j'avais attiré d'ailleurs l'attention en commission l'autre jour là-dessus. Nous recevons 8 à 10 % de jeunes qui sont en situation de handicap sur nos centres de loisirs. Notamment, c'est pas négligeable, vous savez, pour du personnel qui n'a pas toujours la formation. Et bon, si vous trouvez que nous allons en sens contraire, je crois que vous vous trompez, que vous caricaturez fortement. Voilà, monsieur le maire, je m'arrête, je vous remercie.
Bien, merci monsieur Bieler. Bon, je sais pas, madame Delmas, non.
Oh, ça a déjà été
qu'on en rajoute
bien assez long. Monsieur le maire, juste pour rassurer sur l'endettement, bon, de prendre le ratio qui va bien à chacun. Bon, il faut rassurer. Ce qui est important, et le ratio le plus important, que ce soit une entreprise, une collectivité, c'est la capacité d'autofinancement. C'est le ratio de solvabilité. Ce que je peux dire, c'est que la capacité d'autofinancement brut pour la TEST, elle est de 418 euros par habitant, à comparer à la moyenne départementale qui est de 149 euros. Et la moyenne régionale, 164 euros. Vous voyez qu'on est bien au-dessus. Et la capacité de désendettement est inférieure à 3 ans. Pour une moyenne à 6-7 ans et pour un seuil d'alerte à 10 ans. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur l'aspect endettement. Après, tout le reste a été dit.
Bien, merci madame Delmas. Bon, moi je vais conclure. Je vais, bon, pas vous abreuver de millions de chiffres, de pourcentages, etc. Bon, monsieur Bieler, vous l'a quand même rappelé. Je pense que vous oubliez un peu votre gestion, hein, donc votre gestion de ces temps où finalement vous avez augmenté beaucoup les impôts, vous investissiez largement moins de la moitié de ce que nous investissions. Voilà, alors cet oubli de gestion, ma foi, je pense qu'aussi bien en 2008 qu'en 2014, les Tesserins ne l'ont pas oublié et ne vous ont pas renouvelé leur confiance. Donc le logement social aussi, on n'a pas à rougir par rapport à ce qu'il y avait. Nous sommes maintenant à 12%, nous augmentons, nous allons encore augmenter. Voilà, donc après, Mme Delmas vous l'a dit aussi, les ratios de démontrent que la commune est en bonne santé. Donc vous savez qu'il y a 2,4 années pour le remboursement de la dette par rapport à beaucoup de communes. Même disons que la zone verte est à 6 ans et ça commence à devenir inquiétant à 10 ans. Donc voilà. Donc après, puisque vous attendiez, vous le demandez, l'analyse financière du trésorier, eh ben écoutez, je vais vous livrer pas tout, mais la conclusion. Ben, vous l'avez demandé, je pense.
Donnez-la nous, bien évidemment.
Moi, j'ai entendu. Ben voilà, donc je vais.
Non, mais forcément.
Évidemment, parce qu'il n'y a que vous qui trouvez que c'est mal géré. Donc, quand même, les autorités de contrôle vont pouvoir éclairer, puis éclairer l'Assemblée et la presse. Voilà. Donc, juste la conclusion, je ne vous dis pas tout le rapport, puisque déjà, il reprenait grandement tout ce que nous avons développé. Donc, tous ces critères, donc, permettent de conclure que la commune affiche une situation financière excellente, avec des produits réels de fonctionnement en hausse de 8,2, très, très supérieur aux moyennes, des charges de fonctionnement réelles en légèrement en hausse de 0,1%, inférieure aux moyennes, des investissements réels en forte hausse de 25%, quasiment trois fois supérieur aux moyennes, un fonds de roulement en forte hausse atteignant un niveau très élevé et constituant des réserves confortables dans laquelle la commune pourra puiser pour financer de nouveaux investissements et une capacité d'autofinancement brut en forte augmentation, plus de deux fois supérieure aux moyennes. L'endettement reste très bien maîtrisé par rapport à l'autofinancement dégagé par la collectivité. Par ailleurs, l'ensemble des ratios analysant la structure financière de la commune sont très satisfaisants, la conjonction de tous ces critères permettant de conclure que la commune est en excellente santé financière. Voilà, maintenant je vais céder la présidence à M. Bieler pour qu'on puisse voter ce compte administratif et je vais m'éclipser. Voilà, à tout à l'heure.
Bien, donc nous allons procéder aux quatre votes de ces comptes administratifs. Alors tout d'abord, sur le compte administratif du budget principal 2015, y a-t-il des oppositions ? Compte administratif du budget principal 2015, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des oppositions. Donc trois oppositions plus la procuration, sans doute quatre. Y a-t-il des abstentions ? Non. Donc le compte administratif du budget principal 2015 est adopté à la majorité. Concernant le budget annexe, le compte administratif du budget annexe Île aux Oiseaux 2015, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Il est donc adopté à l'unanimité. Compte administratif du budget annexe du parc des expositions 2015, des oppositions, des abstentions ? Unanimité. Compte administratif du budget annexe Pôle Nautique 2015, des oppositions, des abstentions, unanimité également. Voilà, si vous voulez bien faire revenir Monsieur le maire, ce sera avec plaisir. Ah, j'avais quelque chose à lire, paraît-il, mais je n'ai pas mes lunettes, alors je vois du noir. Non, mais non, c'est Madame Guillaume, puisqu'il veut faire lire des choses. Voilà, donc, monsieur le maire, hein, tous les comptes administratifs ont été approuvés.
Bien, merci beaucoup, merci monsieur Bieler. Donc, maintenant, eh bien.